Bonaventure Djami est avec nous. On va le présenter, mais on va surtout présenter son livre « Casaboua, entre Russes et Racines ». Bonjour Bonaventure.
Bonjour Monsieur Lavergne.
Donc, vous êtes écrivain, journaliste, voilà, vous avez un parcours aussi d'études en France. Et vous venez de quel pays ?
Du Togo. Alors, vous me faites un grand honneur en me présentant comme écrivain. Bon, je suis à mon premier essai. Bon, je prends le compliment, même si je ne prétends pas encore être encore un écrivain. C'est vrai que j'ai été journaliste pendant très longtemps. Maintenant, je suis un peu plus dans l'information que dans le journalisme. Mm-hmm. Voilà. Donc, et mon parcours, en effet, j'ai fait mes études supérieures en France. À l'université de Villeneuve-d'Ascq ici, pour mon master en économie, et puis à l'école de journalisme de Lille, où vous intervenez d'ailleurs, Monsieur Lavergne.
Donc on va maintenant présenter peut-être un périple, celui de quelqu'un qui habitait au Togo et qui est venu étudier en France, voir aussi le contexte de... C'est de son arrivée, de son, on va dire, entre guillemets, intégration ici, peut-être à Lille. Peut-être voir aussi les relations que vous avez pu établir avec les gens localement. Est-ce que vous avez été bien accueillis ? Est-ce que vous avez une expérience avec eux intéressante aussi en termes de culture générale, nouvelle par rapport au Togo ?
Oui, en effet. Alors, c'est vrai que par rapport à la France, c'est mon père qui vivait en France depuis les années 80. Et donc, c'est après, quand j'ai accédé aux études supérieures, que le projet a été construit, que je vienne poursuivre mes études supérieures ici en France. J'ai fait une partie de mes études supérieures au Togo, d'où je suis originaire, et donc le reste ici. Donc, comme je le disais, à l'université de... Donc, on disait Lille 1 à l'époque, donc l'université Villeneuve-d'Ascq, ici. Et puis, à l'école de journalisme. Oui, je suis arrivé au début des années 2000. Et bon, d'ailleurs, avant d'arriver en France, il faut le dire, j'avais un attachement quand même très fort avec la France quand je vivais déjà au Togo. Je suis toujours épris de culture française, chansons françaises, littérature française et autres. Et peut-être cet attachement à la culture française fait que quand je suis arrivé, donc mon intégration ne s'est pas compliquée, puisque j'aimais déjà la France. Et j'ai vu que la France m'a bien accueilli d'ailleurs, parce que dans mon entourage je le voyais, les amitiés que j'ai faites, et donc cela a pu faciliter mon intégration sans doute. Et puis donc j'ai été pendant quelques temps journaliste, vous m'avez d'ailleurs connu Monsieur Lavergne comme journaliste.
Oui, bien sûr.
Et puis après je me suis dit je vais faire une reconversion professionnelle. Et je suis tombé, si vous voulez, dans l'enseignement. J'aime dire que je suis passé de l'information à la formation. Et donc aujourd'hui, initialement j'avais un master en sciences économiques et sociales, j'interviens dans le lycée où je partage un peu les connaissances que j'ai accumulées en économie avec les jeunes. Voilà. Mmh.
Le fait d'avoir un père en France, ça a aidé?
Ah oui, moi j'ai toujours dit si mon père ne vivait pas en France depuis les années 80 déjà, je serais peut-être arrivé en France, mais ça aurait été plus compliqué. Le fait d'avoir un membre de la famille qui était déjà installé donc en France a facilité grandement mon arrivée en France. Et donc quand j'arrive, il habitait dans la région parisienne, et donc j'ai vécu un peu avec lui dans la région parisienne. Et puis après, donc je suis venu dans le nord où je me suis installé pour mes études. Et puis après, donc je me suis lancé dans ma carrière, si vous voulez, de journaliste initialement, sachant que dans mon pays où je vivais, donc j'étais déjà attiré par le métier de journalisme. Mm-hmm. Et sur le terrain, donc je pratiquais un peu le journalisme, j'écrivais des articles que je plaçais assez par là. Cela a d'ailleurs facilité aussi mon entrée à l'école de journalisme. Quand j'ai passé le concours, j'ai pu l'avoir assez facilement parce que j'avais une expérience de terrain. Et puis, voilà.
Donc, vous êtes sorti, on va dire, du journalisme. Qu'est-ce que cette expérience de journaliste et peut-être de l'école de journalisme à Lille vous a appris, vous a apporté de plus pour poursuivre vos idées?
Alors, c'est vrai que journaliste, j'ai toujours été, j'ai un attachement fort avec le journalisme écrit, donc l'écrit, donc coucher des choses que je pense sur papier blanc. Et donc journaliste, j'ai correspondu hein, avec des organes de presse écrite. Et sans doute que cela a joué, cela a été peut-être décisif dans, si vous voulez, mon aspiration à écrire. Parce que j'ai toujours, j'ai toujours écrit, quand je pense une chose, je dis, voilà. Et puis j'ai un côté un peu rêveur comme ça. Voilà, je m'initie un peu, enfin, je m'initie quelquefois un peu à la littérature. Je pense une chose, je l'écris. Et sans doute que oui, cela a nourri, alimenté mon aspiration pour donc ce métier que je voudrais bien exercer, être écrivain.
Mmh. Donc le journalisme, une base, c'est quand même d'expliquer ou de faire comprendre le monde aux gens, on va dire, au public, c'est un peu ça l'idée. Et là, vous voulez faire comprendre votre monde de naissance, c'est-à-dire le Togo, votre culture de base, à une population. Alors, je ne sais pas qui s'adresse cet ouvrage, à tout le monde, j'imagine, hein, mais qu'est-ce que vous avez voulu y mettre d'essentiel ?
Monsieur Lavergne, vous avez tout résumé. Donc le journaliste, on va dire l'historien du quotidien. Et donc dans ce livre, c'est ce que j'ai voulu partager avec les lecteurs. Hein, donc en France, pour ceux qui seront intéressés par mon écrit et peut-être probablement au Togo, en Afrique de l'Ouest. Alors oui, dans Casabois entre Us et Racine, j'ai voulu un peu retracer l'historique de la fondation d'un petit village. C'est une localité au Togo, au nord-est du Togo, en allant vers la frontière avec le Bénin. Alors, ce bouquin que j'ai écrit m'a permis un peu de retracer un peu le passé, une partie du passé colonial de la France, non, du Togo, pardon, de la France, vous voyez, c'est le... Donc de la France parce que donc le passé colonial du Togo est divisé, si vous voulez, en deux parties. Il y a d'abord donc le lien avec l'Allemagne, donc le premier traité de protectorat entre le Togo et un État européen, ça a été d'abord l'Allemagne. Mmh. Et puis après la première guerre mondiale, donc la coalition, on va dire, britannico-française a bouté, voilà, permettez-moi le terme, hein, donc l'Allemagne dehors, et donc le Togo a été divisé en deux. Et une partie est revenue donc à la Grande-Bretagne, qui a été rattachée plus tard au Ghana, et une partie donc qui est, on va dire, qui a été concédée à l'État français comme territoire tutelle. Et c'est cette partie qui est devenue l'État du Togo aujourd'hui, donc qui est devenue l'État-nation Togo aujourd'hui. Et donc, quand les Allemands étaient déjà au Togo, ils avaient entrepris comme cela des projets de peuplement de localités qui n'étaient pas habitées. Donc, il y avait des endroits au Togo à l'époque où il y avait de fortes concentrations de populations humaines. Et il y avait d'autres endroits un peu, qui étaient la brousse, la forêt, c'est bon, la savane, on va dire. Et donc, ce sont les Allemands qui avaient entrepris ce projet de déconcentrer, si vous voulez, les localités, donc de ramener des populations qui étaient trop concentrées sur certains territoires, de les amener dans d'autres localités qui n'étaient pas du tout habitées, qui étaient la brousse, pour leur permettre de fonder des villages. Alors, c'est ainsi que mon grand-père qui vivait dans une localité qu'on appelle donc la Kosa, c'est-à-dire où vit, on va dire, le peuple Kabyé, dont je suis issu. Hein. Donc, il vivait donc dans le Kouméa, où c'était une forte concentration de population autour d'une montagne, et ils avaient du mal à avoir de la terre pour cultiver. Or, les jeunes à l'époque avaient des ambitions agricoles, développer des champs. Et donc, mon grand-père, alors l'histoire m'a été contée, évidemment. Donc, mon grand-père s'est donc embarqué, si vous voulez, hein, dans ce projet de partir, donc de quitter l'endroit qu'il a vu naître, où ses grands-parents et arrière-grands-parents ont vécu, pour aller donc dans l'inconnu, si vous voulez, aller fonder un de ces villages. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé autour d'une grande ville qu'on appelle Sotoubois aujourd'hui, dans ce que nous appelons le bassin économique de Sotoubois, où il a été débarqué là avec quelques-uns. Les sources divergent, pour certains, ils étaient 48, d'autres 45. Bon, ils étaient, on va dire, une cinquantaine. Ils ont été débarqués dans cet endroit et c'est là qu'ils ont fondé ce village qu'on va appeler Casabois. Et donc, dans ce village, ils vont importer, on va dire, leur façon de vivre, leur culture, leur us et coutumes, leurs rites traditionnels, etc., dans ce village qu'ils vont aménager. Ils vont aménager des champs. Et donc, ce village qui existe toujours aujourd'hui, hein, ce village est aujourd'hui confronté aux questions de modernité. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ce passé que j'ai voulu retracer dans cet ouvrage. Et puis, rappeler un peu aussi que, voilà, encore une fois, peut-être cet écrit le confirme aussi que l'histoire humaine, c'est toujours une histoire de migration. Ouais, c'est donc des peuples, hein, qui ont quitté un endroit pour s'installer, se fixer à un autre endroit. Et d'ailleurs, c'est parce qu'il s'est fixé à cet endroit, qu'il a fait des rencontres là, que donc mon père est né et que je suis né. Je suis un produit de migration. Voilà.
Alors, quand on parle de pays africains, souvent, dans un pays, il y a plusieurs peuples, on va dire, et certains peuples sont sur plusieurs pays. Je ne sais pas si je résume.
En effet.
Et donc, le Togo, comment on pourrait le présenter ?
Alors, le Togo, donc, c'est un pays donc, de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est un pays donc, qui va de la côte atlantique jusque ce qu'on appelait à l'époque l'Interland, c'est-à-dire l'intérieur des terres, donc à la frontière avec le Burkina Faso. Et quand vous allez du nord au peuple, vous avez des différents peuples. Donc le grand peuple, on va dire, au sud du Togo, c'est le peuple Évé. Le peuple Évé qui était disséminé hein, sur le Togo, une partie du Ghana et le Bénin. D'ailleurs, notre le premier président, ce qu'on appelle le père de l'indépendance togolaise, il est un peu un produit. Hein, il est Évé, voyez, donc il est Évé et il a des origines togolaises, bien mais aussi béninoises, voire ghanéennes. Donc ce grand peuple, c'est le peuple du sud, les Évé et les Mina. Mais les Mina, attention, faut pas que j'oublie les Mina. Alors donc, c'est en réalité donc le fait colonial, vous voyez, donc le tracé de frontières coloniales qui va créer ces États-nations qui va donc diviser ces peuples. Donc je disais que au sud vous avez donc les Évé et les Mina. En allant vers le nord, vous avez donc le peuple Kabyé, par exemple. Hein, vous voyez dans les plateaux Kabyé. Donc moi je suis issu. Le peuple Kabyé aussi est un peu disséminé hein, dans cette partie qu'est le Takora. Et vous avez donc une partie au Togo, une partie au Ghana et une partie au Bénin. D'ailleurs, les gens s'étonnent que quand ils vont au Bénin ou bien au Ghana, qu'ils rencontrent des gens qui parlent Kabyé. Mais c'est parce que c'est le même peuple. Et avant, peut-être le Moatakoa, vous aviez d'autres peuples. Hein, vous voyez. Et puis après, vous avez les peuples Chokossi, dont une partie se trouve au Togo, une partie au Ghana. Voilà. Donc en fait, c'est les mêmes peuples. Et c'est le fait colonial, donc le tracé de frontières qui va les diviser, puisqu'il fallait bien, après les indépendances, les États-nations devaient émerger sur le modèle des États-nations, comme ils existaient selon le modèle de Brodel, comment dire.
Donc l'idée, c'était de diviser pour régner ou pour organiser les choses de manière réaliste pour des, des, des envahisseurs, on va dire, colonialistes.
Alors, ce n'était pas... Alors, est-ce que... le but, ce n'était pas forcément de... Évidemment, la question de diviser pour régner a toujours existé hein, dans la stratégie des peuples pour dominer d'autres peuples. Mais non, ce n'était pas... le tracé des frontières ne reposait pas sur cette stratégie de diviser pour régner. C'était des possessions... qui étaient reconnues à l'origine à l'Allemagne et les possessions qui étaient reconnues à la France, des possessions territoriales, hein, donc à la Grande-Bretagne. Et pour distinguer ces différentes possessions territoriales, bah, ils devaient tracer des frontières. Mmh. Alors ici, c'est moi, là, c'est vous, ailleurs, c'est tel. Voilà, donc c'était pour distinguer les possessions territoriales à l'époque. Mmh. À l'époque.
Alors, quand je prends ce village qui était d'une certaine manière constitué à un moment donné avec des gens qui venaient d'un peu, enfin d'une périphérie, je sais pas, 20-30 kilomètres peut-être, c'est un peu ça.
Oui, alors en effet, alors peut-être un petit détail. Donc ce projet de peuplement, donc de déconcentrer les peuples un peu pour les, on va dire, les disperser un peu sur le territoire togolais, il avait été commencé, je disais, hein, par les Allemands, il a été poursuivi par les Français. Alors à l'origine, quand les Allemands avaient entrepris ce projet, quand ils fondaient un village, ils prenaient des gens de tribus différentes qu'ils mettaient sur une même, dans une même localité pour fonder un village. Alors après, quand les Allemands sont partis et que les Français ont repris le projet, ils se sont rendus compte que quand on mettait des peuples de différentes tribus ensemble, quelquefois, bien, ils ne s'entendaient pas. Les peuples ne s'entendaient pas. Alors, ils ont, on va dire, changé de politique où le parti qui a été pris, c'est de fixer en un même endroit des peuples issus d'une même tribu. Et donc là, c'est la particularité vraiment de cette localité qu'on appelle Kazaboua, où vont se retrouver là le peuple Kabyé dit Kudjang. Donc le peuple Kabyé, c'est un grand peuple hein, donc de cette partie nord du Togo. Et au sein du peuple Kabyé, vous avez quelques petites tribus, quelques clans, etc. Et donc la tribu, on va dire Kabyé Kudjang, et les jeunes de Kabyé Kudjang et leurs épouses à l'époque ont été fixés donc à Kazaboua. Et sur c'est la particularité vraiment de Kazaboua, sur ce territoire, il vit que le peuple Kabyé Kudjang, donc dont je suis originaire. Mmh. Sachant qu'ailleurs, dans d'autres villages qui avaient été créés bien avant par peut-être les Allemands ou bien par les Français avant qu'ils ne changent de politique, vous avez donc un melting pot hein, de peuples, comment dire, Losso, Kudjang, Kabyé, etc. Donc c'est la particularité de Kazaboua.
Alors si on compare les deux types de villages, hein, est-ce que certains ont des avantages et des inconvénients et d'autres l'inverse.
Alors, avantages, inconvénients, bon, ça le, enfin, cela ne, on va dire que on n'est pas dans cette logique. Dans le cas de Kazaboua, j'explique dans l'ouvrage. Hein. D'ailleurs, à l'époque, il faut savoir que tous les jeunes n'étaient pas, on va dire, tous, on va dire, ils n'allaient pas d'eux-mêmes fonder les villages. Quelquefois, ils étaient forcés par le colonisateur. Dans le cas spécifique de Kazaboua, les jeunes étaient volontaires. Mm-hmm. Quand ils sont partis, peut-être que le fait d'être tous peut-être du même village à l'origine a peut-être été un avantage dans le développement de ce village qui aujourd'hui est un village vraiment c'est un village que j'aime bien quand les fois où je retourne en vacances donc au Togo, je fais toujours le plaisir d'y retourner, même si c'est vrai que nous on a été mis au monde à Lomé, la capitale, j'ai un attachement particulier. Alors quand vous parlez de avantages et inconvénients, alors encore une fois, cela ne s'analyse pas de cette façon, mais dans le cas de Kazaboua, voilà, donc le fait d'avoir été des jeunes ayant été de la même tribu a pu être un avantage dans le développement de ce village, comme si, comme cela peut, a pu avoir, être aussi un inconvénient. Hein. Voilà. Donc, l'avantage aussi, c'est quoi? Donc, ils ont quitté un endroit où ils avaient peu de terre pour, à cultiver, à un endroit où c'était vraiment des, on va dire, des kilomètres carrés de terre arable. Très riche, et c'était la forêt, et d'ailleurs à l'époque, quand il quittait le grand pays Kabyé pour cet endroit, les grands-parents racontent bien que ils étaient convaincus qu'ils allaient être dévorés par les lions.
Voilà. D'accord, il y en avait encore à cet endroit-là.
Ah oui, à l'époque, il y avait, en tout cas, il y avait des animaux sauvages de la savane, et il y avait des lions, puisque même certains racontent que il fallait faire attention la nuit, il fallait pas trop s'éloigner parce que on pouvait tomber sur des fauves. Il y en avait, oui, il y en avait à cet endroit-là, oui.
D'accord. Donc Kazabouha était créé en quelle année à peu près?
Alors voilà, donc sur la date, il y a des controverses, des polémiques. Bon, en tout cas, Kazabouha n'a pas pu être créé avant les années 30, puisque Kazabouha a été forcément créé après que donc l'État français a pris donc la tutelle du Togo. Donc c'est, donc d'aucuns disent que c'est 1939, que l'arrivée c'est en 1939. Alors la date probable, c'est l'année probable, la date, l'époque de l'année, on ne sait pas, mais l'année probable, c'est 1939.
D'accord. Voilà. Donc si on reprend ces 80 années d'histoire, oui. Est-ce que on va dire depuis 80 ans, l'évolution a été beaucoup plus considérable que le siècle précédent, par exemple?
Ah voilà, vous posez une très bonne question, Monsieur Lavergne. Voilà, c'est en cela que je dis que c'est un village qui est tiré entre donc tradition et modernité. Alors il faut savoir que donc c'est un village qui est depuis 1939, donc fin des années 30. Alors il n'a été électrifié que récemment. Donc, il y a à peine, on va dire, peut-être une dizaine, tout au plus une douzaine d'années. Donc, les déchets s'y sont développés. Non, c'est toute la, on va dire, tout le paradoxe de ce, voilà, donc de cette localité, hein, qui vit la situation de bien de localités en Afrique, le sous-développement. Donc c'est un village qui est aujourd'hui, qui connaît maintenant, où les populations ont accès à un minimum d'énergie, donc l'électricité, mais c'est un village où les populations vivent encore les problèmes de bien de localités africaines, hein, donc le difficile accès à l'eau potable, par exemple, le difficile accès donc à la santé. Voilà, jusqu'à récemment, enfin il y avait pas d'hôpital en tant que tel. Bon, là il y a s'est développé un hôpital, hein, mais il y a par exemple pas vous habitez à Kazabouha, les chances d'être consulté par un médecin sorti d'une école de médecine, enfin d'une faculté de médecine, est très rare. Il faut aller sur dans d'autres villes, voyez, pour aller dans un grand hôpital. Il y a pas, le village n'est pas équipé d'un grand hôpital, par exemple. L'accès à la nourriture, voilà, ce sont des agriculteurs. Donc l'accès à la formation, alors le premier, on va dire, établissement scolaire dans la localité a été créé par les missionnaires. Donc les missionnaires. Pendant très longtemps, elle a été la seule école. D'ailleurs, c'est l'école où, d'ailleurs, mon père a été scolarisé, et puis il a poursuivi ses études d'ailleurs après. Donc, c'est plus tard que l'État y a créé une école publique, et donc un collège. Il y a, on va dire, maintenant quand même une trentaine d'années, un collège y a été établi. Mais l'idée, par exemple, et construire un lycée, on est loin de cette perspective. Donc, parce que ça reste un petit village. Voilà. Donc, voilà, c'est une localité qui fait face aux problèmes de bien des localités sous-développées d'Afrique.
Alors, je ne sais pas si du temps de l'Allemagne, un peu l'intrusion allemande. Vous avez eu le temps, en tant que peuple, hein, d'apprendre l'allemand. Le français semble être resté un peu plus permanent, là, non ?
Ah oui. Donc, en effet, le Togo, aujourd'hui, est un État francophone. C'était un État francophone. Donc, quand les Allemands étaient encore là, quand le Togo était... On disait Togoland, d'ailleurs, à l'époque, quand le Togo était sous des administrations allemandes. Donc, il y avait des projets de germaniser, hein, enfin, le Togo, hein, donc d'apprendre donc aux Togolais l'allemand. Et puis, donc, il y a eu cette guerre, hein, donc la première guerre mondiale. Et très brutalement, donc l'administration allemande a cessé, et donc les Français ont pris, l'État français a pris le relais, et donc c'est la formation à la française qui a été développée. Donc aujourd'hui, c'est un État francophone avec une administration qui fonctionne avec la langue française, mais donc les langues locales, donc les langues existent toujours, hein. Il y a une vingtaine ou une trentaine de langues selon donc chaque tribu, ou si vous voulez ethnie, un terme duquel je me méfie un peu, a sa langue, à sa langue bien propre, sûr, oui. Et il y a une vingtaine voire une trentaine de langues, mais la langue officielle reste la langue de l'administration, reste le français, la langue qui est enseignée à l'école.
On peut dire que le Togo est dans l'espace de la francophonie.
Ah oui, le Togo, c'est un État francophone.
Qu'est-ce que ça apporte à un peuple, hein, d'avoir plusieurs langues, dont le français ?
Ça, je ne vous l'apprends pas, Monsieur Lavagne. Vous savez que, la diversité linguistique, c'est une richesse. C'est une richesse. Comme toute diversité, bien souvent. La question après les indépendances a été de savoir est-ce que il faut faire table rase du français, en gros, remplacer le français par une des langues locales qui deviendrait alors la langue officielle du Togo. Donc il était question de faire de lever, je disais tout d'un le peuple élevé qui est le grand peuple du sud. Alors, donc, ce projet n'a pas pu aboutir parce que l'histoire politique du Togo a été celle-ci. Donc, après les indépendances, 3 ans après, donc les indépendances, c'est le 27 avril 1960. 3 ans après, il y a eu un coup d'État militaire. Donc, d'ailleurs, les coups d'État, on en parle encore aujourd'hui abondamment en Afrique. Il y a eu un coup d'État militaire et qui a mis fin à tout projet allant dans ce sens. Et donc, le français a été, on va dire, confirmé langue officielle. Alors maintenant, quand vous dites quel est peut-être l'avantage, certains disent aujourd'hui, il y a plusieurs, on va dire, ethnies, avec chacune sa langue. S'il fallait faire d'une des langues locales la langue officielle du Togo, de laquelle il faut choisir, est-ce que c'est l'évé, du grand peuple évé du sud, est-ce que c'est le Kotokoli, par exemple, hein, il y a un peuple, hein, qu'on appelle le peuple Kotokoli, c'est le peuple Tem, est-ce que c'est sa langue, ou bien c'est le Kabyé, dont je suis originaire. Donc, sur cette question, on ne s'entend pas. Et donc, ça, arrange tout le monde que le français soit la langue, on va dire, officielle du pays. Ça arrange à peu près tout le monde.
Alors, quand on a une langue de naissance et une langue qu'on s'est appropriée, comme vous, est-ce qu'il y a un moment ou des circonstances où on pense dans la langue d'origine et d'autres où on pense dans la langue, c'est-à-dire le français en l'occurrence ?
Ah, ça, c'est une très bonne question. Alors, au Togo... Au Togo, il faut quand même le dire, il y a un très fort attachement aux langues locales. Le français est une langue de l'administration, certes, mais dans leur quotidien, les Togolais parlent leur langue locale. Donc, quand vous allez au sud, c'est la langue dominante, c'est l'évé. Donc, c'est la langue que tout le monde parle, que je parle d'ailleurs, puisque moi, je suis né dans la partie sud du Togo, donc à Lomé. Vous allez vers le nord, vous allez dans chaque localité, chacun parle sa langue. Et c'est vrai, il faut le dire, les gens pensent d'abord dans leur langue locale.
D'accord.
Dans leur langue locale. D'ailleurs, je peux, dans la partie sud du Togo, il y a une fierté de dire que voilà, on est très attaché à sa langue, à la sa langue Évé. Et non, je pense que demain n'est pas la veille pour que le français remplace l'Évé ou le Kabyé ou bien non. Donc le français restera la langue de l'administration. Alors ça changera un jour. Est-ce qu'on fera un jour de l'Évé ou bien d'une autre langue locale la langue officielle du pays, je n'en sais rien. Mais il y a un fort attachement aux langues locales. Voilà.
Alors, on dit beaucoup en Afrique que l'expérience, la vie se transmet oralement. C'est toujours le cas ?
Vous savez que c'est d'ailleurs ce que bien des historiens disent, que donc une des entraves, vous voyez, donc à faire de l'histoire en Afrique, c'est donc le développement tardif de l'écrit. L'écrit a été développé certes en Égypte, bon, mais maintenant, dans l'Afrique subsaharienne, il y a eu, c'est vrai, un retard dans le développement de l'écrit. Et d'ailleurs, dans Casabois, entre Husse et Racine, la dernière nouvelle que j'ai écrite, je raconte un conte qu'on nous racontait quand on était petit. Et ce conte, il a été transmis oralement. Et c'est vrai que l'écrit a été développé très tard. L'Évé dont je parle et le Kabyé dont je parlais tout à l'heure, ce sont des langues qui sont aujourd'hui écrites, mais elles n'ont pas toujours été. Mm-hmm. Donc l'expérience d'écrire l'Évé, d'ailleurs, a été, je vais pas me faire des amis en le disant, a été sans doute le fait colonial. Donc c'est la Grande-Bretagne, sa colonisation du Ghana, de la partie qui est devenue aujourd'hui le Ghana, c'est la Grande-Bretagne qui a entrepris donc de faire écrire, donc de représenter par des signes donc la langue Évé. Puis plus tard, les Allemands donc ont repris le projet. Et puis, ça a été fait aussi avec d'autres langues, le Kabyé. Les premiers écrits dans nos langues locales, c'était des écrits religieux, donc la Bible, la traduction de la Bible en Évé. Puis plus tard en Kabyé, pour ce que je sais, dans les autres langues, sans doute aussi, mais je sais que voilà. Donc l'expérience d'écrire nos langues locales. Encore une fois, je ne vais pas me faire des amis, hein. Je me ferai des ennemis en affirmant ça. Ça a été le fait colonial, il faut le reconnaître.
Alors, bonne aventure, Jamie. Donc, Casabois, Entrus et Racine, on a compris qu'il y avait une grande partie de vos racines, bien sûr, et aussi la transmission. Alors, comment on choisit ce qu'on veut transmettre, notamment en français, par rapport à une autre langue, notamment celle d'origine?
Comment on choisit ce que l'on veut transmettre? La culture orale, la transmission, on dit les écrits restent et puis les paroles s'envolent. La transmission, c'est donc d'oreille à oreille, d'une génération à une autre. Et c'est comme ça que le conte que je raconte dans Casabois entre Husse et Racine et nous est parvenu. Et d'autres contes, d'ailleurs, je voulais d'ailleurs raconter d'autres contes, mais je me suis dit, je vais me limiter à celui-là, c'est celui dont je me rappelle le plus. Alors, comment on choisit? C'est une bonne question. On choisit sans doute les choses de la vie qui vous marquent le plus. Voilà, donc les contes parce que c'est, on va dire, la littérature locale, vous voyez, donc qui a été développée par les ancêtres, vous voyez, depuis, qui a été inventée, d'ailleurs, qui s'enracine d'ailleurs dans le quotidien des gens. Donc les contes, donc qui passent à la postérité par et puis voilà, donc le fait de raconter les origines d'une localité, comment un peuple a quitté un endroit pour se fixer à un autre endroit, c'est également une des choses qu'on va transmettre par l'oral. Par exemple, pour le cas du peuple Évé, c'était un peuple voilà qui a quitté, qui auparavant vivait donc au Nigeria, donc au Yoruba, etc. Donc, et qui progressivement est descendu vers la côte. Donc ça a été transmis. Dans le cas du peuple Kabyé, on raconte que voilà, il semble que ça remonte à très loin. C'est un peuple qui viendrait du Soudan, donc des royaumes de Kouch. Vous voyez, donc après l'Égypte, hein, donc vous voyez, donc, et donc qui est descendu aussi, hein, par vagues successives, qui s'est dispersé au Mali, une partie au Burkina Faso, et puis une partie qui est arrivée au Togo. Donc on raconte les contes, on raconte ses origines. Alors qu'est-ce qu'on choisit de raconter, voilà. Moi, je dis, c'est ce qui marque les gens dans leur quotidien, et raconter.
Alors, il existe des ouvrages, hein, contes et légendes d'Afrique ou d'ailleurs. Hein, il y a plein de livres de contes et légendes. En quoi donc votre livre, hein, Kazabouha entre ses racines, amène quelque chose d'original, peut-être une réflexion différente, et puis aussi la traduction d'une vie et d'une culture particulière.
Voilà, donc, bon, généralement, les contes, alors sachant encore une fois que c'est un recueil de nouvelles et que dans ce recueil de nouvelles, seule une nouvelle est un conte. Alors, les contes en Afrique, généralement, quand ils sont racontés, le but, c'est toujours de tirer un enseignement. Il y a une portée pédagogique au conte. Généralement, c'est raconté aux enfants. Ça fait partie, on va dire, c'est un outil de socialisation, d'éducation de l'enfant. On le raconte à l'enfant et on amène l'enfant à tirer un enseignement pour sa vie. Donc, une morale, en gros. Donc, c'est comme ça que les contes sont... C'est le but, c'est l'objectif.
Est-ce que c'était la morale avant la religion, par exemple?
Non, je pense que les deux sont mêlés, forcément. Oui, les deux sont liés, forcément.
C'est quoi la religion?
Alors, la religion au Togo, alors... en Afrique, les Africains sont animistes, à l'origine. Et puis, donc, on va dire que le premier contact avec des religions qui ne sont pas africaines en Afrique, ça a été avec l'islam, quand donc les Arabes ont traversé, on va dire, le désert. Enfin, le désert pendant longtemps a été une frontière, hein, entre donc la Méditerranée et la partie subsaharienne de l'Afrique. Donc ça a été donc les Arabes qui ont donc, on va dire, islamisé, hein, donc le Mali, le Niger, etc. Ensuite, par le fait colonial, le christianisme est arrivé.
Par les missionnaires.
Voilà. Et donc aujourd'hui, les deux, enfin, on va dire, pour le cas du Togo, je dirais que la religion dominante, c'est quand même le christianisme. C'est le christianisme. Alors maintenant, les pourcentages, bon, les chiffres divergent, hein, 60%, voilà. Alors, une partie du peuple est musulmane. Donc, je parlais tout à l'heure du peuple Tem, qui parle la langue Kotokoli. Ils sont musulmans. Et donc, l'autre religion, c'est donc l'animisme qui subsiste, hein, comme c'est la religion originelle. Et d'ailleurs, la particularité en Afrique, c'est un certain syncrétisme. Vous voyez, c'est que les gens, enfin, ils vont pratiquer... donc l'animisme, et puis ils vont aller à l'église. Voilà.
Il y a aussi l'adaptation de la religion qui vient de l'extérieur à une réalité.
Oui. Donc d'ailleurs, lorsque donc l'Afrique a été christianisée, bon, la Bible reste la Bible, donc l'Évangile reste l'Évangile, le texte, il est immuable, on ne le change pas. Mais oui, c'est vrai que je sais que les pères, donc les prêtres, les curés, ont cette idée-là de faire en sorte que le christianisme s'adapte. s'adapte tout simplement.
Est-ce qu'il y a des fêtes locales qui sont devenues des fêtes religieuses aussi, enfin, qui ont été récupérées, on va dire, d'une certaine manière?
Ah, ça, c'est une très bonne question. C'est vrai que quand on célèbre, bon, on raconte que quand on célèbre donc, la Noël, c'était à l'origine une fête, une fête païenne qui est devenue une fête chrétienne. Alors, dans nos localités, les fêtes locales restent des fêtes locales. Les fêtes locales restent les fêtes locales et donc il y a des fêtes chrétiennes aussi. Donc je dirais que je vais pas dire qu'on ne mêle pas les deux. Non, c'est pas le terme n'est pas approprié. Dans le livre, par exemple, je raconte le cas d'une fête chez le peuple kabyen. Hein, on danse sur la route tous les 3 ans. Et d'ailleurs, c'est lors d'une de ces fêtes qu'il y a eu un grave accident qui s'est produit dans le bassin de Sotoubois, que je raconte également dans Casabois, Us et Racine. Non, il y a des fêtes traditionnelles qui sont liées, voyez, à la pratique religieuse animiste qui date de très longtemps, qui subsiste. D'accord, aussi bien chez les peuples kabyens, chez les évêques. Mais... comme je vous le disais, c'est en cela que, voilà, donc il y a cette pratique du syncrétisme où on va célébrer la fête locale qui était une fête, on va dire, voilà, le terme n'est peut-être pas approprié, païenne, donc vraiment enracinée dans la religion, on va dire, animiste. Mais en même temps, on va dire qu'on est chrétien, et puis on va célébrer la Pâque, on va célébrer la Noël, et puis on va célébrer la Pentecôte, etc.
Voilà. Plus il y a de fêtes, mieux c'est.
Oh oui, mieux c'est.
Est-ce que les gens sont festifs dans ces villages?
Ah, mais oui. Alors, la culture, d'ailleurs, la culture africaine, c'est une culture centrée beaucoup sur, la fête, les réjouissances populaire. Mmh. Oui, on en fait, il y a beaucoup, beaucoup de fêtes. Et d'ailleurs, chez le peuple kabyen, dont je raconte un peu l'histoire à travers donc, ce recueil de nouvelles, l'année, c'est un cycle marqué par des fêtes. Il faut savoir que le calendrier, on va dire, donc avec 12 mois, enfin les 12 mois, 365 jours, c'est arrivé par le fait colonial également, en Afrique.
C'était un calendrier plutôt lunaire avant ?
Oui, c'était un calendrier lunaire rythmé par les saisons, d'accord, les saisons sèches, les saisons pluvieuses, et à chaque fois qu'on rentrait dans une saison, il y avait une fête qui marquait donc l'entrée dans la saison, ou bien à chaque fois qu'on sortait d'une saison aussi, hein, il y avait des par exemple, je raconte également, je le dis très très vite comme ça dans le recueil de nouvelles, chez les Kabyais, lorsque on cultive les champs, à chaque fois qu'il y a la moisson, voilà, c'est marqué par une fête. Mm-hmm. Bah, par exemple, la fête de... Il y a une fête qu'on appelle la fête des ignames. La fête des ignames, voilà, donc on a cultivé l'igname. L'igname s'est développé, on va le récolter et après la récolte de l'igname, ça va être marqué par une fête. C'est généralement, c'est fin août ou bien mi-août jusqu'à fin août. Oui, donc la culture africaine, chez les Kabyes en tout cas, l'année est marquée comme ça par des rites, des traditions liées aux activités économiques.
Hein. Est-ce que vous avez un nouvel an particulier ?
Nouvel an particulier, alors, chez le peuple Kabyes en tout cas, le fait de célébrer donc le passage dans une nouvelle année par une fête on va dire que c'est également colonial, hein, puisque c'est le calendrier on va dire universel.
Mais je vois par exemple en Kabylie ou en Chine il y a le nouvel an qui représente un peu une certaine forme de printemps aussi, de renouveau de toute façon. Est-ce qu'il y a une date aussi chez vous, enfin, qui fluctue peut-être selon les calendriers?
Voilà, il y a, mais c'est difficile de fixer un jour comme pour le calendrier universel où c'est le 1er, c'est le 1er janvier, 31 décembre, la Saint-Sylvestre, puis le 1er. Ça existe, des fêtes pour marquer l'entrée dans une nouvelle année, mais il n'y a pas de jour fixe.
D'accord. Mais c'était quand cette année, en 2022?
Chez le peuple kabyen, il y a en gros deux grandes saisons. La saison pluvieuse et la saison sèche.
D'accord.
Et on sait que dans l'année, on a deux grandes saisons. Et donc, quand les deux saisons sont passées, on passe à une nouvelle année. Mm-hmm. Alors, maintenant, dans les temps anciens, il devait avoir un jour décidé par les anciens, pour marquer ce passage d'une année à une autre année. Mais je dirais qu'aujourd'hui, avec l'arrivée, le calendrier universel, tout le monde, y compris donc chez les Kabyles, c'est, on va dire, arrimé donc au calendrier universel où le passage à la nouvelle année, c'est comme un peu tout le monde, un peu partout. D'accord. Sur la Terre aujourd'hui, en janvier.
Donc on parlait de fêtes là, j'aime bien terminer sur des fêtes. Est-ce que pour vous, le mariage est une fête importante?
Ah oui. Et le mariage, c'est une fête importante. Et même une fête très importante. L'union de deux jeunes, d'ailleurs, je le raconte bien, ça fait, quand je dis Casabois entre us et racine, vous avez bien compris que c'est un jeu de mots par rapport à l'expression us et coutume. Dans les us des Kabyles, le mariage, c'est, on va dire que c'est tout un processus d'initiation du jeune et de la jeune qui va passer par différents rites initiatiques et ces rites initiatiques vont, on va dire, aboutir au mariage. Mm-hmm. Et le mariage, c'est une façon de dire que le jeune ou bien la jeune, ils sont passés par tous les rites et l'apothéose. Le mariage a une signification profonde et c'est marqué par des fêtes.
Est-ce que le mariage, c'est aussi une occasion de découvrir, alors pour un jeune, une jeune qui vient de plus loin, de ressourcer un petit peu aussi?
Ah oui, chez nous, je le raconte également dans le recueil de nouvelles, le jeune, quand il naît, il passe par, c'est un rite quand il a 12 ans, c'est un rite auquel on va donner un nom particulier. Quand il a 15 ans, un rite auquel on va donner un rite particulier. 18 ans ou 19 ans, également un rite particulier, un nom particulier. C'est pareil pour la jeune fille. Et là, généralement, aux alentours de 18-20 ans, aussi bien pour le jeune ou bien pour le jeune garçon que pour la jeune fille. C'est autour de cet âge-là, le mariage se fait. Et oui, je me rappelle plus très bien la question que vous avez posée.
La question, c'était, est-ce qu'on va chercher loin le partenaire?
Ah, si on va chercher loin les partenaires. Alors, chez les Kabyles, en tout cas, le Kabyle, quand il vivait... Les mariages se faisaient au sein des mêmes ethnies. Encore une fois, je me méfie beaucoup du terme ethnie, qui a une certaine connotation que vous savez sans doute en Afrique. Des mariages, interethniques, ça existe. D'accord.
Quand je dis peu loin, ça veut dire géographiquement plus loin, c'est pas forcément de changer de culture.
Ah non, quand vous dites, évidemment, quand on dit plus très loin, il me semble que à l'époque, c'est rare de voir une personne qui vit dans la partie septentrionale du Togo aller épouser une personne qui vit en Côte d'Ivoire. C'est rare. Moi, cette question est très intéressante puisque je la raconte également dans le recueil de nouvelles.
Bon, donc, je ne voudrais pas aller trop loin. Dans cette découverte de ce livre. Je vais le reproposer aux auditeurs pour qu'ils l'intègrent bien et qu'ils aillent chercher eux-mêmes dans ce livre qui s'appelle « Casabua, Antrus et racines ». Et il est signé par Bonaventure Djami. Merci beaucoup.
Merci, monsieur Lavarine,
de m'avoir reçu.
C'est très gentil. Merci.
Au revoir.